Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va trouver une place, si ce n'est assise dans des sièges assis par terre. Bienvenue pour cette 8e soirée d'éthique publique du Centre Sèvres. Merci pour votre fidélité, pour la publicité que vous faites par le bouche à oreille, permettant à beaucoup de découvrir cet espace de parole. Un petit mot pour rappeler l'esprit de ces rencontres. Il y a ceux qui sont des fidèles, des habitués depuis la première rencontre, et puis il y a toujours des visages nouveaux et nous nous en réjouissons. Chaque début de mois, habituellement le premier mardi de chaque mois, les facultés jésuites de Paris vous proposent, en partenariat avec la revue Croire Aujourd'hui, une soirée d'échange autour d'une question qui, de près ou de loin, concerne notre rapport à la vie politique, sociale, publique, professionnel, international. L'objectif, c'est de pouvoir nous donner les uns aux autres un certain nombre d'éléments de compréhension et d'analyse de certaines situations, mais de pouvoir aussi repérer un certain nombre de critères ou de pistes qui nous permettent de mieux nous situer dans les différentes situations de notre vie, des pistes aussi pour continuer notre propre réflexion personnelle ou avec d'autres. Alors, ce ne se veut pas une conférence académique exhaustive sur un sujet, mais bien une invitation à nourrir notre réflexion et notre agir chrétien. Le point de départ, c'est la parole d'une ou deux personnes qui vont partager simplement, modestement et en confiance comment ils perçoivent les enjeux d'une telle réalité. Leur parole n'est évidemment pas une parole définitive, mais bien une parole pour ouvrir à d'autres paroles, à d'autres réflexions. Avant d'aborder le thème de ce soir, je voudrais rappeler le thème de notre prochaine rencontre, le mardi 2 juin, ça sera la dernière soirée d'éthique publique avant les vacances. Nous réfléchirons sur la situation du Proche-Orient. Peut-on un jour vraiment arriver à la paix entre Israéliens et Palestiniens? Et pour nous aider à réfléchir aussi sereinement que possible sur cette question, nous accueillerons M. Antoine Sfer, qui est politologue, qui est spécialiste du Moyen-Orient, qui est rédacteur en chef des Cahiers de l'Orient, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, et M. Elie Barnavi, qui est historien, qui est ancien ambassadeur d'Israël à Paris et qui est actuellement directeur scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles. Inutile de dire combien cette soirée devrait être particulièrement intéressante, comme toutes les autres soirées d'ailleurs, vous me direz, mais notamment en raison du sujet et de la qualité des invités. Alors, pas moins importante et délicate, la réflexion que nous voulons mener ce soir. Nous avons eu l'occasion, certains s'en souviennent, d'aborder en décembre dernier le thème de la crise financière, avec comme question de départ, sommes-nous prisonniers de la finance? Avec Jean-Paul Redouin, sous-gouverneur de la Banque de France, qui est parmi nous ce soir, et Dominique Seux, rédacteur en chef des Échos. Évidemment, nous avions abordé la problématique du modèle économique de notre société, et nous vous proposons de revenir sur cette question ce soir à l'occasion de la sortie d'un important ouvrage. Il faut avoir le bras long ici. 20 propositions pour changer le capitalisme, paru il y a quelques semaines, pour réformer le capitalisme. La nuance est importante. Paru aux éditions Flammarion, que vous trouverez à la sortie. Travail de plusieurs économistes, dont Gaël Giraud et Cécile Renoir, qui sont avec nous ce soir, et d'autres auteurs qui sont dans la salle. Quelques mots de présentation de nos invités. Cécile Renoir est religieuse de l'Assomption, docteur en philosophie politique, auteur d'une thèse intitulée « Multinationales industrielles et développement durable des pays du Sud, de quoi rendre responsables les multinationales ?» Son travail l'a conduit dans de nombreux pays toutes ces dernières années. Elle continue d'ailleurs beaucoup à voyager, notamment en Afrique, au Kenya, au Nigeria, au Bénin, où elle a ausculté les filiales de Total, Michelin, Lafarge, Unilever, notamment dans leur rapport au développement socialement durable. Elle est l'auteur de deux autres ouvrages, La responsabilité éthique des multinationales, paru en 2007 au PUF, et Un monde possible, Les acteurs privés face à l'injustice, paru en 2008 aux éditions du Seuil. Cécile Renoir enseigne ici aux facultés jésuites de Paris, ainsi qu'à l'école de Mines, et elle est chercheure associée à l'ESSEC. Gaël Giraud est né en 1970, il est entré dans la Compagnie de Jésus en 2004. Économiste, chercheur au CNRS, il est membre de l'école d'économie de Paris. Tout en poursuivant sa formation jésuite, et puis un petit peu pour s'occuper en plus, il fait partie du CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale des Jésuites, qui publie la revue Projet. Il est l'auteur de nombreux articles, je vous cite l'un de ces derniers, « Nouveau chemin de solidarité », paru dans la revue Études en janvier 2009. Il est l'auteur en 2000 chez Flammarion d'un ouvrage sur la théorie des jeux, et un des lecteurs dira de ce livre, « Il est rare de trouver des livres qui présentent de manière aussi distrayante et drôle des théories mathématiques réputées austères. » Cela, je crois, est encourageant pour notre débat de ce soir sur un sujet également austère et compliqué. Gaël Giraud et Cécile Renoir travaillent depuis des années donc avec un groupe de praticiens, d'analystes, de connaisseurs de la finance pour réfléchir à des réformes possibles, et c'est du résultat de ces recherches communes qu'ils nous parleront dans un instant. Après avoir écouté l'approche de la situation et les propositions qu'ils font, eh bien, nous prendrons le temps d'écouter M. Nicolas Véron, à ma droite, qui nous donnera son sentiment par rapport à ces propositions. Nicolas Véron, vous êtes né en 1971, diplômé de l'École Polytechnique, de l'École des Mines de Paris, après être passé par Saint-Gobain, par la Banque Rothschild et le cabinet de Martine Aubry, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité, vous vous investissez dans le secteur des médias en ligne. Vous devenez ainsi directeur financier de Multimania, puis Lycos France. Et en 2002, vous créez la société de conseil, études et conseils pour l'information financière, et vous participez à la création du Centre de recherche économique européen, Bruegel, dont vous rejoignez ensuite l'équipe de recherche, et vous en faites partie aujourd'hui. Vos travaux portent principalement sur les marchés de capitaux, les services financiers, les transformations du capitalisme international, comme l'indiquent vos nombreuses publications. Et je ne retiendrai ce soir que le dernier, j'espère que c'est le dernier, il n'y en a pas un qui m'a échappé depuis, « Le grand dérèglement, chronique du capitalisme financier » paru aux éditions Ligne de repère en 2009. Vous êtes également chroniqueur depuis 2005 au quotidien économique La Tribune. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ce soir et de profiter de votre éclairage et de vos réflexions sur l'avenir du capitalisme. Alors sans plus attendre, eh bien, je vais laisser la parole aux auteurs principaux de cet ouvrage pour qu'ils nous présentent de manière simple et accessible pour tous, bien d'abord quel constat ils font de la situation d'aujourd'hui et quelles propositions leur semblent possibles, indispensables à mettre en œuvre pour réformer le capitalisme. Je cède d'abord la parole à Cécile Renoir. Merci Cécile.
Bonsoir. Je voudrais démarrer en disant que c'est vrai que ce livre, nous l'avons écrit assez rapidement, avec comme point de départ la crise financière. Et en même temps, nous savons bien que cette crise financière, cette crise que nous vivons au niveau mondial, elle n'est justement pas simplement financière, elle est aussi alimentaire, elle est écologique, énergétique, et d'une certaine façon, on peut dire qu'elle est systémique. Et je crois que le travail, comme vient de le mentionner François Boédec, le fait que ce travail ait été un travail collectif est une manière aussi de souligner qu'aucun d'entre nous n'a évidemment la solution et n'a la solution seule. Et sans doute qu'un des grands défis pour les années qui viennent est d'arriver à se coordonner entre citoyens et acteurs placés à des fonctions diverses dans la société. Et je crois que la façon dont nous avons écrit le livre dit quelque chose de cette démarche. Alors, je dois dire qu'il y a aussi dans la salle, en fait, trois des co-auteurs du livre, un ingénieur financier dans une banque d'investissement, un responsable du trading dans une compagnie pétrolière et un directeur financier d'une filiale d'un grand groupe industriel français. Alors, je pense qu'ils auront peut-être aussi l'occasion, notamment dans la deuxième partie de la soirée, de s'exprimer. Mais vous voyez bien que la diversité, là aussi, de leurs expériences dit quelque chose de ce que nous avons tenté dans ce livre. Alors, il s'intitule « 20 propositions pour réformer le capitalisme ». Ce sont donc des propositions. Comme je l'ai déjà dit, voilà, nous souhaitions proposer un certain nombre de choses, étant bien conscient que nous avons des expériences, des compétences variées, spécifiques, en aucun cas exhaustives, et que l'idée, c'était davantage de pouvoir à la fois analyser ce qui se passe en ce moment, et la crise financière, démonter un certain nombre de rouages de cette crise, mais aussi élargir la perspective et surtout offrir des propositions à débattre dans l'espace public, propositions à débattre pas simplement entre experts. Même si certaines des propositions sont techniques, pour nous, un des défis de cet ouvrage était de parvenir à bien souligner les enjeux de société qu'il y avait derrière. Alors, de ce fait, nous avons adopté un plan qui est en quelque sorte un plan en sablier, c'est-à-dire que nous avons démarré par les premières propositions concernent un regard large, je dirais, quelle est finalement la fonction de l'entreprise dans la société. Et d'une certaine façon, la crise nous accule tous à nous demander si, à reconnaître les dérives et les impasses d'une certaine forme de capitalisme et à nous interroger sur les moyens de réinscrire justement l'entreprise dans la société. Puis à partir de ces propositions plus larges, je vais en dire un mot, nous avons ensuite attaqué des propositions plus techniques concernant la finance de marché pour enfin réélargir les questions aux enjeux politiques et d'une certaine manière aux enjeux de politique internationale concernant notamment les questions de fiscalité à l'échelle mondiale. Voilà. Mais je voudrais d'abord dire quelque chose, donc, de la deuxième partie du titre, qui est « Pour réformer le capitalisme ». Alors, c'est vrai que on peut dire d'abord que le capitalisme se caractérise par l'accumulation indéfinie du capital, qui est certes nourri par un appât au gain, d'une certaine manière insatiable. Puis le capitalisme se caractérise aussi par la séparation entre détenteurs du capital et détenteurs de la force de travail. Mais, alors c'est ce qui nous semble important à noter, même si le titre c'est « Réformer le capitalisme », c'est que justement il n'y a pas un capitalisme, mais il y a des formes variées de capitalisme qu'on peut reconnaître dans l'histoire à la fois capitalisme de type anglo-saxon, un capitalisme rhénan, qui ne s'identifie pas non plus au capitalisme de type japonais. Pour donner un exemple, évidemment le système de la cogestion allemande permet une concertation entre différentes parties prenantes de l'activité de l'entreprise et cette concertation est absente quand le seul but devient la maximisation du profit pour les actionnaires. Donc il nous semble qu'évidemment un des grands défis c'est de pouvoir réconcilier, on pourrait dire, les facteurs travail et capital et d'une certaine manière faire en sorte que le capital appartienne davantage aux travailleurs. Mais disons que souligner qu'il existe des formes de capitalisme, c'est aussi souligner que ces différentes formes reposent sur ce qu'on peut appeler des ethos, c'est-à-dire des normes, des valeurs, des systèmes de représentation, et que ces formes de capitalisme, elles-mêmes, qui reposent sur ces ethos diversifiés, engendrent aussi des valeurs, des manières de se situer dans la société différentes. Et donc l'enjeu, c'est bien de définir des critères qui permettent l'avènement de structures plus justes et de véritables projets de société. Et c'est pour cela qu'il nous a semblé très important de souligner l'articulation entre les enjeux éthiques, économiques et politiques. Et que bien loin, tout est des débats pour savoir si le capitalisme est moral ou pas, en fait, nous sommes pas mal interrogés sur la question au niveau de la justice sociale. C'est-à-dire, est-ce que les structures du capitalisme peuvent évoluer de manière à correspondre à un certain nombre de principes de justice sociale, et Gaël en dira un mot tout à l'heure. Alors, pour revenir sur les premières propositions du livre concernant le grand enjeu qui consiste à pouvoir réencastrer finalement l'économie dans la société et dans le cosmos, donc nos premières propositions concernent les moyens d'engager les entreprises à intégrer dans leur stratégie des critères extra-financiers, concerne ensuite le contrôle nécessaire à la fois des agences de notation, des entreprises d'audit, de manière à améliorer de façon générale le contrôle extra-financier et financier. Il y a aussi une proposition sur l'intégration des critères qu'on appelle les critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans les décisions des investisseurs. puis des propositions qui concernent aussi la valorisation du salariat. Alors je voudrais, pour rendre les choses un peu concrètes, donner un exemple. Alors c'est un exemple qui est devenu assez médiatique ces derniers mois, mais il me semble bien emblématique du questionnement actuel à l'intérieur des grandes entreprises quant aux possibilités de faire en sorte que justement l'économie soit au service d'un projet de société. Donc je voudrais donner l'exemple de ce que le groupe Danone essaye de faire en termes de social business, où, puisque selon les termes de Mohamed Younous, le fondateur de la Grameen Bank, donc l'organisme semi-privé, semi-public qui a énormément développé le microcrédit au Bangladesh et qui a essaimé dans un certain nombre d'autres pays. Et donc, il y a quelques années, Mohamed Younous, donc le président de la Grameen Bank, a signé un accord avec Franck Riboud, le PDG de Danone, pour proposer un nouveau modèle économique au Bangladesh, c'est-à-dire plutôt que pour Danone construire une grande usine qui permettrait de vendre des yaourts dans tout le Bangladesh, la décision qui a été prise, c'était de construire, donc au lieu d'une grande usine, 50 micro-usines, des usines qui soient vertes, qui recyclent au maximum qui transforment les déchets, qui recyclent l'énergie, qui soient le moins mécanisées possible, de manière à employer le plus possible de travailleurs locaux, qui permettent, puisqu'il s'agit de petites usines dispersées dans tout le pays, d'avoir recours à des fermiers locaux. L'idée étant également d'apporter des yaourts avec des compléments nutritifs aux enfants pauvres malnutris. Et puis, de permettre aussi aux femmes, alors celles qu'on appelle les Grameen Ladies, de vendre des yaourts dans les villages, et donc pour elles, d'une manière de contribuer à une forme de ressources supplémentaires pour ces femmes. Voilà. Alors, et sachant que 99%, 97% des profits sont réinvestis sur place. Donc, le modèle est magnifique. Donc, c'est signe d'une... Alors, comme le dit Emmanuel Faber, le directeur général adjoint de Danone, il parle d'une révolution mentale à opérer dans la population des cadres dirigeants des grands groupes, disant, reconnaissant que nous ne pouvons pas continuer comme nous l'avons fait depuis 20 ou 30 ans, qu'il faut changer de modèle et qu'il s'agit donc de repenser l'activité économique avec l'objectif, en mettant en première ligne l'objectif social. Alors, je voudrais souligner quelques tensions de ce modèle qui disent quelque chose des interrogations actuelles. C'est-à-dire que, en l'occurrence, pour l'instant, il y a une usine au Bangladesh, une deuxième devrait bientôt ouvrir. Et puis, l'année dernière, le prix du lait, en lien avec la crise alimentaire, le prix du lait a augmenté, ce qui fait que l'entreprise Grameen Danone, donc qui est détenue à part égale par le groupe Grameen et par Danone, cette entreprise vendait ses yaourts à perte. Ce qui fait que le prix a été augmenté, donc ils n'ont plus vendu de yaourts dans les villages. Donc, grande interrogation pour savoir que faire. Et finalement, la décision qui a été prise, c'était de faire des yaourts avec moins de lait, mais autant de micronutriments, ce qui a représenté ensuite une petite prouesse technique de la part du laboratoire de Danone, qui a essayé de trouver le moyen de faire en sorte de ne pas trop altérer le goût du yaourt. Bon, ce qui veut dire que maintenant, ils sont repartis en vendant des yaourts au même bas prix, accessible aux plus pauvres, mais avec toutes les questions que ça pose, étant donné que le modèle n'est pas encore rentable. Et donc, alors, c'est là qu'interviennent aussi les enjeux de gouvernance, les décisions qu'il y avait à prendre au sein de cette entreprise mixte Grameen Danone, Mohamed Younous disant, nous sommes une banque, c'est la banque des pauvres, donc nous utilisons l'argent des pauvres, il faut que nous soyons rentables assez rapidement. Et Danone disant, mais nous ne voulons pas trop vite retourner dans le business as usual, c'est-à-dire qui consistait, alors c'est quand même ce qu'ils font pour équilibrer le modèle, c'est de vendre aussi des yaourts d'une taille plus importante à un coût plus élevé dans les villes, donc aux classes moyennes. Alors je trouve l'exemple intéressant parce qu'il montre bien une recherche entre des acteurs qui sont à la fois des acteurs locaux et des acteurs, ces groupes internationaux, le fait qu'il y a que au fur et à mesure, chemin faisant que les problèmes se découvrent, qu'ils sont posés et que les acteurs essayent de les résoudre, avec aussi des enjeux en termes de, par exemple, de démarches, de communication. Danone a l'habitude de faire un peu de marketing dans les villages, ce qui représente une question par rapport au modèle culturel qui existe. Et puis, il y a toute la question de savoir dans quelle mesure une entreprise privée peut légitimement vendre des yaourts qui sont censés être en fait un élément de santé publique. Donc comment est-ce que des entreprises privées contribuent à améliorer ou à développer des biens publics? Donc il y a toutes ces questions, chacune d'entre elles mériterait d'être beaucoup approfondie. Ce que je trouve intéressant dans cet exemple, c'est que à la fois nous savons qu'il y a beaucoup de d'initiatives en termes d'entrepreneuriat social à l'heure actuelle. Celles-ci émanent d'un groupe et de ce que j'entends de la part d'un certain nombre de salariés de Danone, cette initiative est perçue avec beaucoup d'enthousiasme par les salariés de Danone qui se disent que c'est quand même aussi très enthousiasmant de pouvoir contribuer à un projet qui a une utilité sociale. Alors c'est vrai que Danone est un groupe coté, donc qui est menacé de rachat, qui a par ailleurs une logique capitaliste qui demeure, et il y a un certain nombre d'incohérences qui restent. La première, c'est peut-être le fait que Franck Riboud était le patron du CAC 40 le mieux payé l'an dernier, qui a aussi toute cette question de l'équité en termes de disparité de salaire. On sait bien que le groupe Danone continue aussi à employer des travailleurs intérimaires. Et on peut dire, c'est aussi l'argument d'un certain nombre de critiques de cette initiative. Ils disent finalement c'est une façon pour ces grands groupes de se donner bonne conscience et ça reste très marginal. Alors ce que je trouve aussi intéressant, c'est d'entendre la direction générale de Danone qui précise que donc il s'agit bien d'une révolution mentale à opérer. Qu'ils sont persuadés que il est fondamental d'essayer de transformer assez radicalement le système et qu'ils espèrent que cet exemple essaime dans d'autres grands groupes. Et pour vous donner aussi une autre anecdote, il y a quelques mois, j'avais présenté un peu les recherches autour de l'industrie, des effets de l'industrie pétrolière au Nigeria, qui est le sujet sur lequel je travaille, à des gens donc de Total, et nous avions parlé de l'exemple de Danone. Et Danone insiste pour dire que par rapport à l'initiative au Bangladesh, finalement, ce qui a été aussi très nouveau pour eux, c'était de changer, en fait, de casser leur mot d'ordre, qui est évidemment pour quelqu'un qui produit des yaourts, de maintenir la chaîne du froid. Donc il s'agissait là un peu de casser le tabou, puisqu'évidemment, les personnes à qui les yaourts sont vendus n'ont pas de frigidaire. Et les gens de Total, entendant cela, sont ceux qui s'occupent des développements durables, donc qui sont tout à fait concernés par ces questions, se disaient finalement pour nous, quelle est notre chaîne du froid? Qu'est-ce qu'il nous faut casser comme tabou pour contribuer de manière pertinente, constructive au développement local? Évidemment, quand on a dit ça, on n'a encore rien dit, mais je terminerai là-dessus pour laisser la parole à Gaëlle sur les aspects de régulation et de réglementation financière. Il me semble que ces initiatives, qui sont marginales, petites, disent quelque chose de prise de conscience à l'intérieur des groupes. Et moi, à titre personnel, je vois une évolution en quelques années. C'est-à-dire que quand j'évoquais ces soucis-là, il y a quelque temps, on disait « mais ça, c'est un discours, en gros, d'altermondialiste militant ». Et maintenant, on voit bien comment des cadres dirigeants de groupes se saisissent de ces questions. Et je crois que c'est encourageant dans la mesure où les choses changeront à partir du moment où, où les multinationales, où les grands acteurs privés décideront de collaborer avec d'autres pour chercher ensemble des solutions. Alors ce qui passe, à mon sens, à la fois par l'incitation à entraîner ces grands groupes dans ce mouvement-là et en même temps la question de la contrainte, des réglementations à mettre en place pour harmoniser les règles du jeu. Parce que je crois aussi que, évidemment, l'incitation n'est pas suffisante. Donc, sur les aspects réglementaires liés notamment au système financier international, je laisse la parole à Gaëlle.
Merci. Donc, j'essaie de dire en quelques mots les propositions qui sont centrales dans l'ouvrage et qui sont dédiées à la question de la régulation et de la réglementation des marchés financiers. D'une certaine manière, à l'intérieur du grand débat qui est « faut-il ou bien diaboliser les marchés ou bien les déifier ?», nous avons essayé de répondre ni l'un ni l'autre. Alors, pour essayer de dire ça avec une image, je crois le point de vue partagé par l'ensemble des auteurs qui ont essayé d'aborder ces questions, c'est que des marchés, en particulier des marchés financiers internationaux, sont indispensables au bon fonctionnement de nos économies, mais à condition d'y mettre des règles et d'y réinscrire le droit. Pourquoi ? Parce que si on ne met pas de règles dans un marché, il fonctionne très mal. Alors on a eu la preuve manifeste de ceci l'an dernier, mais d'une certaine manière, les économistes qui sont un tout petit peu lucides, ceux qui sont lucides, le savent depuis longtemps. Et alors, pour le dire avec donc une métaphore, c'est ce qu'on appelle la métaphore des taches solaires. Dans un marché dans lequel il n'y a pas de réglementation, vous pouvez avoir des taches solaires. Qu'est-ce que c'est qu'une tache solaire? Supposez que un soir au journal de 20h, vous ayez le présentateur vedette qui dise, mesdames et messieurs, sur un ton très sérieux, mesdames et messieurs, demain matin, l'euro va s'effondrer. Pourquoi? Eh bien, parce que des physiciens ont observé cet après-midi des taches à la surface du soleil liées à des différentiels de température de la lave en fusion à la surface du soleil. Et par conséquent, l'euro va s'effondrer demain matin. Alors, vous regardez la télévision, comme tout le monde, vous voyez bien que c'est idiot, et qu'il n'y a aucune relation de causalité entre les taches du soleil et le cours de l'euro. Mais, supposez que vous soyez trader, donc c'est vous qui achetez ou qui vendez de l'euro sur les marchés financiers. Vous vous dites, tous mes petits camarades traders ont également vu le journal télévisé de 20h, et ils savent tous que nous sommes très nombreux à croire ce qui se dit au journal, parce que si ça se dit au journal, c'est que c'est vrai. Sinon, ça ne se dirait pas au journal. Et donc, vous vous dites, moi, je sais bien que je suis plus intelligent que les autres, et je sais parfaitement qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les taches solaires et l'euro, mais si tous mes petits camarades se mettent à vendre de l'euro demain matin, l'euro va s'effondrer. Donc, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? J'ai intérêt à vendre de l'euro avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, demain matin, dès l'ouverture des marchés, moi qui suis un trader très intelligent, je vais vendre de l'euro. Et comme nous allons tous faire la même chose, puisque nous sommes tous aussi intelligents les uns que les autres, l'euro va s'effondrer. Et le lendemain, le même présentateur pourra dire, voyez, je l'avais bien dit, l'euro s'est effondré. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle donc une prophétie autoréalisatrice. Il suffit que tout le monde croit que c'est vrai pour que ça devienne vrai. Ce qui veut dire que nous sommes complètement, si nous faisons dépendre nos sociétés de la prétendue autorégulation des marchés, nous sommes complètement dépendants de vents d'opinion qui peuvent agiter les marchés dans un sens ou dans l'autre et qui peuvent n'avoir quasiment aucun rapport avec la réalité. La question n'est pas de savoir si ça a un rapport avec la réalité. La question, c'est est-ce que tout le monde y croit? Et si tout le monde y croit, moi qui suis un intervenant lambda sur le marché, j'ai intérêt à faire comme si j'y croyais, sinon je perds de l'argent. Vous voyez? Alors, la réponse à ceci, nous semble-t-il, en tout cas, c'est qu'il faut mettre des règles sur les marchés. Il y a toute une série de chantiers sur lesquels, de l'avis des auteurs qui ont collaboré à ce bouquin, il faudrait intervenir, et en particulier intervenir au niveau international. C'est un peu, si vous voulez, l'optique qui a été prise par le G20 lors du dernier sommet, et il nous semble, enfin je ne vais pas parler à la place de tous les auteurs, mais je crois qu'on peut dire le G20 va dans le bon sens globalement, même si les propositions qui ont été faites par le G20 aujourd'hui nous semblent très timides et demandent à être véritablement mises en pratique. Pourquoi? Parce que si nous ne mettons pas en place aujourd'hui une réglementation contraignante sur les marchés, en particulier sur les marchés financiers internationaux, dès que la confiance reviendra sur ces marchés, c'est-à-dire, je ne sais pas quand, en 2010, en 2011, nous allons de nouveau avoir une énorme bulle spéculative qui va se former, comme celle qui s'est formée entre 2002 et 2006 ou 2007 sur les subprimes, laquelle bulle va certainement éclater tôt ou tard et provoquer de nouveau un cataclysme aussi monstrueux que celui de l'an dernier. Pour l'éviter, il nous semble qu'il faut absolument qu'il y ait des règles qui soient édictées concernant, alors je vais utiliser des mots barbares, ce qu'on a appelé l'attitrisation, concernant également les règles prudentielles de Bâle II, là je parle un tout petit peu aux experts, mais je vais revenir tout de suite dans le concret, concernant les normes comptables internationales, IFRS notamment. Je vais juste développer un seul exemple qui concerne ce qu'on appelle les marchés de gré à gré. Il faut savoir qu'il y a en gros deux grandes familles de marchés internationaux, sachant qu'en réalité, dans cette famille, il y a plein de cousins qui sont liés les uns aux autres, mais bon, je caricature un tout petit peu. Vous avez deux grandes espèces de marchés. Vous avez des marchés centralisés dans lesquels il y a ce qu'on appelle une chambre de compensation, qui est une institution qui sert de vis-à-vis à tous les intervenants du marché. Donc vous arrivez sur ce marché, vous n'allez pas du tout échanger avec Monsieur X, vous allez faire un échange qui passera via cette chambre de compensation, laquelle, pour vous autoriser à intervenir, va vous demander de montrer patte blanche, d'une certaine manière. D'abord, elle va vous demander qui vous êtes, puis ensuite, elle va vous demander de faire un dépôt de garantie, pour le cas où, tout d'un coup, vous n'honoreriez pas les contrats que vous avez passés, etc. Donc ça, c'est une classe de marché. Et puis, vous avez une autre classe de marché, que, pour caricaturer, on pourrait appeler des bazars, c'est-à-dire à peu près n'importe qui peut y aller et passer à peu près n'importe quel contrat, je caricature, sur à peu près n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé pour toute une série d'actifs extrêmement nocifs, qui étaient notamment les actifs dépendants de la dette de Lehman Brothers, qui est une grande banque d'investissement américaine qui, comme vous le savez, a fait faillite le 15 septembre dernier. Au moment où cette banque a fait faillite, personne probablement ne savait qu'il y avait sur ces marchés, qui sont un peu des bazars, des marchés assez opaques, que les gens s'étaient couverts, donc avaient pris des garanties, 50 fois sur la dette de Lehman Brothers. Ce qui veut dire qu'au moment où Lehman Brothers a fait faillite, il a fallu rembourser 50 fois le montant de cette dette, ce qui était considérable. Probablement que si les autorités américaines l'avaient su, elles auraient réfléchi à deux fois avant de laisser tomber Lehman Brothers. Donc c'est un exemple qui montre que le caractère complètement opaque de ces marchés qui sont un peu des bazars, qu'on appelle des marchés de gré à gré ou des marchés OTC, est extrêmement dangereux. N'importe qui peut y arriver et transmettre ou vendre des produits extrêmement compliqués que probablement ni les acheteurs ni les vendeurs ne comprennent souvent, etc. Voilà. Donc une proposition simple qui est faite dans cet ouvrage, c'est introduire des chambres de compensation, donc des organismes de centralisation, sur la plupart de ces marchés de gré à gré. Évidemment, les spécialistes vous diront, c'est très compliqué, on ne peut pas faire ça brutalement sur tous les marchés. Alors, ce qui est dit dans l'ouvrage, c'est qu'il y aurait au moins un certain nombre de marchés sur lesquels on devrait prioritairement s'interroger sur la question de savoir s'il ne faudrait pas mettre des chambres de compensation. Lesquels ? Eh bien, tous les marchés sur lesquels on pourrait potentiellement avoir notre prochaine bulle spéculative si nous ne faisons rien. Par exemple, tous les marchés des matières premières et de l'énergie. Ce qu'on a vu l'an dernier au sujet du cours du pétrole, ça a été un phénomène absolument incroyable d'augmentation très rapide du prix du pétrole, puis de chute vertigineuse du cours du pétrole. Pourquoi ? Ça n'était pas lié du tout à une augmentation tout d'un coup de la demande du pétrole ou à une diminution de l'offre, non. C'était lié au jeu spéculatif, en grande partie, sur des marchés opaques sur lesquels on échange des dérivés qui dépendent du cours du pétrole. Et puis vous avez eu la même chose sur les matières premières, sur l'alimentation. Voyez. Donc si on ne fait rien sur ces marchés, il est tout à fait possible que d'ici un an, deux ans, vous ayez des bulles spéculatives qui apparaissent sur le pétrole, mais aussi sur le riz, sur le soja, sur le maïs, etc. Donc il est indispensable de réglementer ces marchés. Et il y a une grande question qui se pose, qui est de savoir qui va décider des règles, qui va mettre ces chambres de compensation. Voilà. Ça, c'est une grande question. On pourrait penser au FMI, mais on pourrait penser à d'autres instances, par exemple européennes. Un autre grand marché qui devrait être prioritaire d'après nous, c'est le marché de la dette souveraine des pays. De quoi s'agit-il ? À chaque fois qu'un pays s'endette, il émet des obligations d'État. Et donc c'est ce qui lui permet de retirer de l'argent sur les marchés. C'est-à-dire qu'il émet des obligations et puis les investisseurs sur les marchés achètent ces obligations. C'est ce qui se passe en particulier pour la dette américaine qui, comme vous le savez, est très largement rachetée par la Chine et par le Japon. Or, ce qu'on a vu apparaître ces derniers mois, même si maintenant ça s'est un tout petit peu calmé, c'est que les investisseurs financiers commencent à jouer, si je puis dire, avec la dette des États. Ils commencent à parier sur le fait qu'un certain nombre d'États pourraient ne pas être en mesure de rembourser leurs dettes. Ça a été le cas en particulier pour la Grèce, pour l'Irlande, mais on pourrait imaginer un jour que ce soit le cas pour les États-Unis. Vous voyez ? Alors si un jour les marchés financiers pensaient à la tâche solaire, décidaient ou réussissaient à se convaincre que les États-Unis ne seront pas capables de rembourser leurs dettes, à ce moment-là, la valeur de la dette des États-Unis va s'effondrer, probablement la valeur du dollar aussi. Donc là, il y aurait quelque chose d'apocalyptique qui se passerait. Donc ça nous semble également urgent aujourd'hui de réglementer les marchés d'actifs dérivés, d'actifs dont la valeur dépend du cours de la dette des États. Vous voyez ? Et en particulier à l'intérieur de la zone euro, ça nous paraît indispensable qu'on puisse essayer de sécuriser cette question, parce que si tout d'un coup les marchés décidaient que la dette grecque ne vaut plus rien, il faudrait imaginer qu'un pays comme la France ou l'Allemagne prenne le micro, fasse une grande conférence de presse et dise « Eh bien, la France et l'Allemagne se portent garant de la dette grecque pour sauver la Grèce », ce qui est assez peu imaginable. Voilà. Donc j'arrête là sur les questions financières. Je dis juste encore un mot sur la dernière proposition de l'ouvrage que nous avons rédigé avec Cécile, qui concerne, disons, une perspective un peu plus de long terme pour proposer des critères, disons, philosophiques ou éthiques pour essayer de s'orienter dans ces questions très complexes. parce qu'il est clair que cet ouvrage n'épuise pas la totalité des questions que nous avons absolument à résoudre dans les mois et les années qui viennent. Donc, on a aussi besoin de grands critères d'orientation. Voilà. On en a proposé un certain nombre dans cette dernière proposition, et je voudrais juste évoquer la question des critères de ce qu'on pourrait appeler la justice sociale. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens, par exemple, vous pourrez penser à quelqu'un comme Friedrich Hayek, qui est un des grands penseurs économistes autrichiens exilés dans le monde anglo-saxon, qui a beaucoup inspiré la révolution de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. Il y a un certain nombre de gens, dont lui, qui disent, vous savez, le concept de justice sociale, en réalité, n'a aucun sens. C'est un mot qui n'a pas de sens. Bon. La question, c'est comment lui donner un sens rigoureux sur lequel on puisse discuter. Alors, nous, ce qu'on a fait dans la 20e proposition, ça n'est pas de dire, nous savons, nous, ce que c'est que la justice sociale, mais c'est de dire, il y a un espace public de discussion démocratique autour de ce que c'est que la justice sociale. Et il nous semble que, aux deux extrêmes de cet espace public, il y a deux conceptions qui sont relativement bien connues et aujourd'hui tout à fait acceptées dans le milieu académique des économistes, que je décris en un mot. La première, disons, ce serait ce qu'on appelle l'utilitarisme moyen, qui consiste à dire une situation est d'autant plus juste qu'elle augmente le sort moyen de la population. Mais alors, si vous adoptez ce critère, vous pouvez dire il est parfaitement légitime de sacrifier une petite minorité de la population, je ne sais pas moi, les gens du voyage, vous voyez, bon, tous les gens qui ne vous plaisent pas, parce que ça va augmenter le bien-être moyen de la population. Donc ça, c'est un critère. Et puis, à l'autre extrême de l'échiquier, vous avez un autre critère qui est, disons, le critère de John Rawls, si vous connaissez, qui dit une situation est d'autant plus juste que le sort du plus défavorisé est le moins défavorisé possible. Donc là, au lieu de regarder le bien-être moyen de la population, vous regardez le bien-être de celui qui est le plus défavorisé. Et vous dites, il y aura d'autant plus de justice que le plus défavorisé sera moins mal loti. Mais là, vous voyez aussi que vous pouvez, du coup, si vous adoptez ce critère, décider de sacrifier le sort de quasiment tout le monde, pourvu que ça améliore le sort du plus défavorisé. Vous voyez ? Voilà. Alors, il nous semble que ça permet d'ouvrir le débat et de dire il y a un véritable espace pour une discussion démocratique dont nous, citoyens européens, par exemple, nous devrions nous saisir. Ce n'est pas un débat qui est réservé aux experts. Il y a un sens à la justice et on peut en discuter. Voilà. Je cède la parole à Nicolas.
Merci beaucoup, Gaël. Merci beaucoup, Cécile, de nous avoir introduit. C'est pas facile, en aussi peu de temps, d'essayer de donner un petit peu la pointe de ces propositions. Il n'y a pas un, mais des capitalismes, et effectivement, en vous entendant, on voit que quand même, il y a un peu d'espoir possible pour faire évoluer la structure du capitalisme vers un peu plus de justice sociale, que les entreprises sont capables de bouger, et l'exemple que vous avez donné de Danone est intéressant, de voir combien il y a une sorte de révolution mentale des cadres d'un certain nombre de groupes qui peuvent s'opérer, que c'est marginal, que c'est petit, mais que ça dit quand même quelque chose d'une évolution, d'une autre manière de poser les questions, étant entendu qu'il faut mettre en œuvre des contraintes pour harmoniser les règles du jeu et que cela est absolument central. Un marché certes indispensable, mais avec des règles. L'illustration du marché de gré à gré, je crois, est assez éclairante à cet égard, Gaël, avec l'importance de chambres de compensation. Et puis cette prise en compte finalement de peut-être ce qui est le plus important, c'est le débat démocratique, la prise en compte de critères, celui de la justice sociale, qui donc, on le voit bien, demande un débat de société pour savoir ce que l'on met derrière. Alors, Nicolas Véron, on parlait tout à l'heure d'économiste lucide, vous en êtes un. Comment recevez-vous une telle réflexion, de telles propositions? Est-ce que ce sont des rêves un peu pieux, de religieux complètement déconnectés du réel? Ou bien, non, vous dites là, il y a quand même quelque chose d'intéressant à creuser.
Pieux, certainement, mais ça ne veut pas dire que ce sont des rêves. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette soirée. Merci également, veuillez accepter mes excuses, puisque la soirée a démarré avec un léger retard dont je suis entièrement responsable. C'est un peu intimidant pour moi d'être dans un lieu dont la première dimension finalement est une dimension religieuse. C'est une situation dans laquelle les gens dont le métier est d'observer le capitalisme, les marchés, les grandes entreprises ou les plus petites, la finance, C'est une situation qui est peu familière, je dois l'avouer, et donc qui est une forme de découverte aussi. En même temps, les liens entre la religion et la finance sont omniprésents, ne serait-ce que lorsqu'on regarde le vocabulaire financier. Hein, lorsqu'on parle de crédit, c'est au fond le même mot que croyance. Non mais ça va très loin, hein. On parle de rédemption de dette, pensez à la rédemption de dette. Le droit des faillites également est plein de termes qui sont souvent également, qui ont un double sens, une double vie de termes religieux. Et c'est pas pour rien, parce que la finance est une matière très paradoxale, très humaine, au fond peut-être plus humaine que, par exemple, l'industrie ou le commerce qui parle d'objets. Lorsqu'on parle de finance, on parle des choses de l'esprit, en fait. Il y a une histoire pour enfants qui, moi, a bercé mon enfance. Je ne sais pas si certains d'entre vous, peut-être, la connaissent, qui est l'histoire du soldat de Ramuse, orchestrée par Stravinsky. Et à un moment, donc c'est l'histoire de ce soldat qui a un pacte avec le diable, qui a un livre qui lui dit ce qui va arriver dans l'avenir. Et donc le livre, évidemment, lui permet de devenir progressivement très riche, hein, parce qu'il lit le livre, il a les cours de bourse du surlendemain, et des choses comme ça. Évidemment, ça se termine mal, hein, vous pouvez imaginer. Et il y a un moment, c'est dans un style littéraire très, très, très frappant, et à un moment il dit « marchand d'abord », il commence à échanger des biens. Il dit « marchand d'abord, marchand d'objets », et puis il n'y a plus besoin d'objets parce qu'on est entré dans l'esprit. Et pour moi, c'est ça la finance, c'est un souvenir d'enfance. Et la finance, au fond, est une matière humaine parce qu'elle est fondée sur l'opinion et sur le jugement. J'aime bien la métaphore des taches solaires. Elle met en contrepoint la raison pour laquelle les présentateurs de télévision ne parlent pas des taches solaires et de leur impact sur le cours de l'euro chaque soir, parce qu'on est dans une communauté humaine d'interaction sociale, politique, dans lesquelles tous les acteurs pensent à l'avenir et ne sacrifient pas leur avenir systématiquement au profit du présent, parce que ils ont un mélange finalement de motivations court-termistes et long-termistes. Votre présentateur, certes, aurait eu raison le lendemain, mais pas le surlendemain. Il se serait décrédibilisé, ça se verrait au bout d'un temps. Et c'est pour ça que les présentateurs télé ne font pas ce que vous avez décrit, ou en tout cas rarement, ce qui ne veut pas dire qu'ils disent toujours la vérité. Donc finalement, la finance nous dit quelque chose sur la société, sur la collectivité, sur la finitude aussi de ce que nous sommes, parce que, je l'ai dit, c'est une matière paradoxale fondée sur l'opinion et le jugement, et le jugement, par définition, peut être faux. C'est-à-dire que le propre du financier, c'est d'avoir le droit de se tromper, c'est également le propre de l'investisseur, et c'est cette finitude qui est profondément ancrée dans le système financier qui en fait à la fois la force et en même temps, naturellement, la fragilité. Alors, je vais parler du livre. Le livre, moi, me paraît un très bon livre, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il a beaucoup de mérite. Et un de ses mérites, c'est qu'il prend ses lecteurs au sérieux. C'est-à-dire que c'est un livre qui est accessible, dont très vite on rentre dans la technique, mais la technique est expliquée avec, je crois, beaucoup de clarté. Et ça permet d'établir un lien, une sorte de pont en fait, entre des débats qui sont habituellement réservés aux techniciens et en même temps une audience non technicienne qui, je crois, a besoin de s'approprier ces questions financières si on veut pouvoir progressivement progresser, si je puis dire, collectivement progresser peut-être. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, je crois que le plus intéressant, ça va être l'échange avec la salle. Je vais juste, peut-être en contrepoint de ce qui a déjà été dit sur le livre, exprimer des questions, qui ne sont pas forcément des scepticismes par rapport au point de vue adopté dans l'ouvrage, mais des questions. Moi, mon métier, c'est de regarder le capitalisme, je l'ai dit, c'est de le regarder pour formuler des recommandations de politique publique, donc des recommandations vis-à-vis des gens qui prennent des décisions au nom de la collectivité, que ces gens soient élus politiques, fonctionnaires, banquiers centraux ou autres. Et donc finalement, je vais formuler quelques questions au prisme de ce qu'est mon expérience dans ce métier, qui est une expérience qui est pas celle d'un financier, pas celle de quelqu'un qui serait à l'intérieur du système, pas non plus celle d'un responsable public, mais plutôt celle d'un observateur. Alors, est-ce qu'il y a un capitalisme ou des capitalismes? Au fond, vous n'êtes pas sûr de la réponse, puisque votre titre et votre propos donnent deux réponses différentes. Proposition pour réformer le capitalisme, et puis en même temps, vous nous avez parlé des capitalismes, du capitalisme anglo-saxon, du capitalisme rhénan, du capitalisme familial, du capitalisme entrepreneurial, du capitalisme de la grande entreprise dont vous parlez dans le livre. Et c'est vrai qu'on est toujours tiraillé entre cette notion de plusieurs capitalismes ou un capitalisme. Moi-même, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, j'ai récemment publié un recueil de chroniques, j'ai hésité sur le sous-titre, je l'ai appelé « Chronique du capitalisme financier » un peu par provocation, parce qu'en fait, mon propos, c'est de dire que le capitalisme est toujours financier. Il n'y a pas de capitalisme non financier. Il y a des manifestations différentes du rôle de la finance dans le capitalisme et surtout de la manière dont ce rôle s'exerce, mais au fond, il y a une certaine unité du capitalisme sur à la fois le rôle des entrepreneurs, le rôle de la finance, le rôle de la gestion des ressources humaines, et donc un certain nombre d'invariants. Et en même temps, il n'y a aucun doute qu'il y a des formulations très différentes. Vous avez cité l'Allemagne, une entreprise allemande, c'est pas une entreprise française, il suffit de se promener dans les entreprises en question pour s'en rendre compte. Donc je crois que là, on a une question qui est une tension dans le débat. Deuxième question, mais j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est le rôle de la finance. En France particulièrement, c'est pas le seul pays dans ce cas, on a tendance à opposer la sphère financière à l'économie réelle. J'emploie des termes qui sont des pontosanes du discours public. Et en même temps, il me semble, pour encore une fois faire profession d'observer ces phénomènes, qu'en réalité on ne sait pas séparer les deux. Il y a un très beau poème d'Émile Verhaeren, qui est un poète symboliste belge, qui date d'il y a un peu plus d'un siècle, 1894, ou je devrais dire 1894, puisque c'est en Belgique, qui s'appelle La Bourse. Et, il parle de la bourse de Bruxelles, en fait, ou de la bourse de n'importe quel pays développé. Il dit « Le monument de l'or, je le cite librement, qui cache en son mystère et son ardeur profonde le cœur battant et haletant du monde. » Le cœur battant et haletant du monde. C'est quand même très ambitieux pour la finance. Mais je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que je crois que nos sociétés sont organisées autour de l'échange, cet échange qui passe par les mécanismes de marché, modérés, régulés, encadrés par un environnement collectif, une réglementation, une législation, un droit international aussi. Mais que dans cet organisme collectif, le rôle du marché financier ou des marchés financiers, c'est le rôle du cœur battant et haletant du monde. C'est ce qui fait circuler le fluide vital qui est le fluide du crédit. Et encore une fois, crédit, confiance, croyance, tout ça sont un peu les mêmes mots. Il y a une autre métaphore qui est légèrement différente sur le plan anatomique, qui est familière à ceux et celles d'entre vous qui ont une culture classique, c'est celle des membres et de l'estomac, une célèbre fable d'Ésope qui est l'histoire de la plèbe romaine qui se retire sur l'Aventin, qui dit « nous on veut plus travailler pour les sénateurs, donc les riches », et puis il y a un tribun qui va les voir et qui leur dit « vous êtes comme si les membres cessaient de travailler pour l'estomac, puisque l'estomac il bouge pas, il fait rien », mais les membres font la grève et puis très vite ils se rendent compte qu'ils sont complètement atrophiés, puisque comme l'estomac n'est plus là pour jouer son rôle d'estomac, et bien peu à peu les membres s'arrêtent de fonctionner. Fable célèbre de l'Antiquité classique. Bon, je crois qu'on tourne autour de la même idée, même si là on parle plus du cœur, mais peut-être d'un organe moins noble. Cette ambivalence, finalement, de la finance paresseuse, vous vous souvenez des paroles de feu le président François Mitterrand, l'argent facile, l'argent qui corrompt, mais qui renvoie à une vieille tradition, qui est aussi une tradition chrétienne. D'ailleurs, il y a un très beau livre de Georges Duby, La Bourse et la vie, qui parle de la vision de de Georges Duby, de Jacques Le Goff, pardon, qui parle de la vision des théologiens et des moralistes chrétiens au 11e, 12e siècle, au moment où l'économie européenne commence à vraiment démarrer pour de bon, et de leur perplexité par rapport aux phénomènes financiers, alors qu'ils n'ont aucune perplexité par rapport à l'activité commerciale. Et ce qui met en évidence, que Le Goff met en évidence dans le livre, c'est que ce qui gêne les théologiens, c'est que dans la finance, on s'enrichit sans travailler. Et notamment, on s'enrichit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est très très difficile à accepter pour un théologien du Moyen-Âge, parce que toute la structuration de la société à l'époque est fondée sur les travaux et les jours, le rythme des saisons, le jour et la nuit. Et vous le voyez, typiquement, c'est l'époque des portails romans. Hein, ceux d'entre vous qui ont été à Vézelay, à Conques, à Autun, voient que toute la vision du monde est structurée sur le rythme des saisons, les travaux et les jours, encore une fois. Et donc, l'idée qu'on puisse avoir un travail financier qui ne connaît pas ce rythme, qui a ce côté inhumain et non naturel du 24-24, 7 sur 7, 7-7, 24-24, comme on dit dans les pubs, est profondément choquante pour eux et diabolique. Je crois qu'on a toujours ça dans très, très profondément ancré chez nous, et notamment, je vais revenir un peu au concret et aux propos du livre, dans la condamnation de la spéculation, en fait. On voudrait avoir la finance sans la spéculation, on voudrait avoir un travail financier qui ressemble au travail industriel ou commercial. Mais c'est pas ça la nature de la finance. La nature de la finance, c'est que la spéculation se sépare pas de l'activité financière normale, parce qu'au contraire, elle en fait partie intégrante. Et donc, on n'a jamais réussi à séparer la spéculation de l'activité financière normale. Moi, j'ai beaucoup de convergence avec ce qui est proposé dans le livre sur les marchés de gré à gré, les chambres de compensation. Je voudrais quand même rappeler qu'on a de la spéculation aussi sur des marchés organisés. Hein, je veux dire, la bulle Internet, c'était tout sur des marchés organisés. Il y avait des chambres de compensation partout. Et donc, il n'y a pas de solution miracle à ce problème de la spéculation. Je parle plus longtemps que je ne voudrais. Juste quelques autres interrogations. Je vais simplement les lister sans développer. Pour qui travaille l'entreprise ? Est-ce qu'elle est au service des actionnaires, au service des salariés ? Question importante d'ailleurs, si elle est au service des salariés, est-ce que c'est les salariés du pays d'origine ou est-ce que c'est les salariés dans le monde entier ? Question pas facile à laquelle la codétermination allemande n'a jamais réussi à répondre, puisque la codétermination allemande, ça donne du pouvoir aux salariés, mais seulement aux salariés allemands. On a un statut de société européenne dans lequel on peut étendre ça aux salariés européens, et c'est ce qu'on fait un très petit nombre de groupes allemands, mais c'est pas évident de l'imaginer dans un monde mondialisé. Donc au service des actionnaires, au service des salariés ou au service de la société. Sachant que quand on dit au service de la société, c'est également une petite question, société nationale, société locale, société mondiale. On a cité l'exemple de Danone et Grameen, on aurait pu citer les coopératives de production, qui est un autre modèle d'économie sociale. Il faut bien constater qu'aujourd'hui, ces exemples d'économie sociale, si je mets Danone dans cette catégorie, peut-être un peu abusivement, vous me corrigerez, sont des exemples assez minoritaires. Et que c'est pas encore, malgré tout, des tentatives, y compris appuyées par des politiques publiques souvent, c'est pas un modèle qui a réussi à conquérir le monde économique. Et je crois que là, alors c'est la vertu des expérimentations d'être au début petite avant de devenir grande, mais ça fait longtemps qu'on expérimente l'économie sociale et on n'a pas encore réussi à trouver une martingale, une formule qui permette à cette économie finalement de prendre le pas, de conquérir le territoire par rapport à un fonctionnement moralement moins agréable de l'entreprise capitaliste au service des actionnaires. Alors justement, la moralisation du capitalisme, c'est un slogan favori de notre président de la République, comme vous savez, il n'est pas le seul. C'est d'ailleurs pas un slogan qui est clivant d'un point de vue gauche-droite du tout. Et en même temps, moi je trouve que c'est un slogan extraordinairement paradoxal, autocontradictoire, qui me fait peur, parce que je pense que le capitalisme n'est pas moral et ne doit pas être moral, de même que l'industrie n'est pas morale, La loi de gravitation n'est pas morale. Je crois que le capitalisme est un phénomène, ce n'est pas une idéologie. C'est un phénomène qu'on peut essayer de comprendre, qu'on peut essayer de maîtriser. Mais je ne crois pas que le capitalisme puisse se réduire, ou puisse plutôt réduire à lui-même la vie en collectivité. Et dans l'idée de moralisation du capitalisme, j'ai l'impression qu'il y a cette tentation de dire, si le capitalisme est moral, il peut devenir le principe organisateur de la collectivité. Comme il l'est d'ailleurs d'une certaine manière dans le champ économique. D'ailleurs, si vous relisez le manifeste du communisme Marx et Engels 1848, ce qu'ils disent, c'est, au fond, il faut mettre fin aux droits de propriété, aux structures familiales, aux structures politiques, à tout ce qu'on connaît dans notre civilisation, parce que le capitalisme y a déjà mis fin. Donc ce sont des fantômes, la famille. Le capitalisme a déjà détruit la famille. Fantôme, la politique, le capitalisme a déjà détruit la politique. Et c'est pour ça qu'il faut le communisme. J'ai tendance à être spontanément, mais peut-être de manière un peu défensive, de manière peut-être peureuse, sur le point de vue inverse, qui est que la structuration collective de la société, elle doit venir de la politique, de dimensions non économiques ou non strictement économiques de la vie en collectivité. Et donc, je ne crois pas beaucoup à la moralisation du capitalisme. Je crois que le capitalisme ne sera jamais moral. Il y a un très beau livre sur exactement ce sujet-là, qui est L'argent de Zola, 1891, qui essaye d'explorer le phénomène de l'argent par tous ses côtés humains. Alors, il y a la philanthropie, il y a la spéculation, il y a l'escroquerie, il y a la générosité, il y a l'entrepreneuriat, il y a le développement industriel. Et tout ça, ce sont des manifestations de l'argent, d'où le titre du livre. Il y a un casting de caractère assez étonnant, c'est un très beau livre, et c'est un livre qui conclut à l'ambiguïté morale fondamentale du capitalisme. Et encore une fois, je me demande s'il ne faut pas au contraire qu'on ait plus de lucidité sur la séparation et les rôles respectifs entre le public et le privé, entre la politique et l'économie, entre l'action de structuration de la société par un vouloir vivre ensemble et la structuration par le marché. Et je m'arrête là en reliant ce point-là à une des propositions qui me semble une des propositions essentielles du livre, très stimulante, qui est celle d'une fiscalité mondiale, puisqu'elle pose la question d'une société mondiale et d'une vie politique mondiale. J'ai déjà parlé beaucoup plus longtemps que je ne le voulais, donc je m'arrête.
Merci beaucoup, Nicolas Véron. Il y a toujours un paradoxe à entendre les religieux parler d'économie et les économistes parler de foi et de théologie, et même de poésie, de fable. Mais c'est des paradoxes qu'on aime bien dans cette maison. J'ai compris qu'il fallait peut-être pas attendre trop de miracles dans le domaine du capitalisme, parce que le capitalisme, vous l'avez dit, n'est pas moral, que c'est un phénomène, que ce n'est pas une idéologie. Mais vous avez quand même introduit le rôle important du politique par lequel des choses peuvent arriver. Autant de sujets sur lesquels nous pouvons maintenant débattre tous ensemble, peut-être en s'appuyant sur un certain nombre de propositions qui ont été mises en avant, sur la capacité plus ou moins grande peut-être des entreprises à bouger, sur les règles du marché, ce qui est possible, ce qui est souhaitable, ce qui est réaliste. Et plus largement, précisément autour des débats de société, le débat sur la justice sociale et puis sur le rôle du politique par rapport à l'économique, autant de choses sur lesquelles peut-être nous allons pouvoir débattre ensemble. Il y a un micro qui va se promener grâce à quelqu'un qui gentiment accepte de le promener. Merci, je crois qu'il faut bien appuyer derrière. Voilà, merci. Alors, on va prendre quelques questions, deux ou trois questions, ou réactions, sentiments. Voilà, il y en a une tout au fond sur la gauche, et puis il y en aura une un peu derrière. N'hésitez pas à bien parler dans le micro.
Pour qui travaille ?
Allez-y.
Pour qui travaille l'entreprise ? Oui, c'est une question très importante. Et je crois qu'il y en a aussi une autre, c'est l'entreprise travaille pour faire quoi ? Pour faire quel type d'objet ? Ou quel type de service ? On peut penser, par exemple, de faire des yaourts, c'est très bien, c'est très utile. En revanche, construire des armements, ça l'est moins. Donc il y a aussi une question là de morale qui est très importante.
Très bien, merci. Il y avait une question juste derrière, et puis on reviendra devant après.
Oui, moi j'étais un peu déçu, je dois dire, dans votre livre, parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de propositions très techniques, et qu'au fond c'était, entre guillemets, la partie un peu la plus facile par des experts. Alors, je ne suis pas encore arrivé à la fin, donc à la fameuse question où vous évoquez les critères de justice sociale, mais ça me trouble un peu que vous ayez eu autant d'imagination sur la partie technique et aussi peu sur le reste.
Très bien, merci. Alors, on va attendre le micro. Voilà, devant, on a une question. Et puis on donnera la parole après pour une série de réponses.
Oui, c'est plus une ou deux réflexions par rapport à ce que j'ai entendu. Déjà sur le sujet réformer le capitalisme, je me disais, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire réformer dans le capitalisme les pratiques des grandes entreprises ? Quelquefois, le champ économique me fait penser à ce qu'on lit dans les journaux de ce qui se passe dans certains quartiers difficiles, où vous avez une bande de jeunes voyous qui embêtent tout un quartier. Et je me dis, dans le champ économique, on a des cow-boys qui foutent la pagaille et du coup qui ont des pratiques de Far West. Et c'est ces gens-là qu'il faut réguler. Ça, c'est un peu la première réflexion. Et deuxième réflexion, est-ce que la vision du coup qu'on a de l'économie n'est pas à convertir, puisqu'on ne nous parle que des grandes entreprises, on nous bassine avec les grandes entreprises, avec les grands patrons, et on déforme complètement l'image de l'entreprise. Et je rappelle que l'essentiel du tissu économique, il est constitué de toutes petites entreprises, de petits patrons, honnêtes, responsables. Et donc, est-ce qu'on n'a pas là aussi à... Est-ce que dans votre livre, alors je ne l'ai pas lu, mais est-ce qu'il ne manque pas justement un chapitre ? Vous avez parlé, Nicolas Véron a parlé de l'économie sociale, et je trouve très intéressant ce qu'il a dit. On parle aujourd'hui beaucoup de l'entrepreneuriat social, de l'économie solidaire, de la petite entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y aurait pas, comment dire, est-ce que justement tout ce champ de la micro-entreprise silencieux n'a pas aujourd'hui des vertus pédagogiques, n'aurait pas aujourd'hui des vertus pédagogiques, parce que ce champ-là nous montre finalement une économie réelle qui ne fait pas de bruit, qui se comporte bien et qui a des vertus pédagogiques. Voilà.
Merci beaucoup. Pour ces trois questions, peut-être Gaëlle et Cécile. Cécile, par rapport au projet du livre. Et...
Oui, et sur ce que vous venez de dire, en fait, je crois que nous sommes tout à fait d'accord. Alors, c'est vrai que nous nous sommes centrés sur les grandes entreprises, à la fois industrielles et puis bancaires, financières, parce qu'elles sont au cœur de la tourmente. Et justement, ce sont elles qu'il s'agit de réformer en premier lieu. Mais c'est d'ailleurs peut-être pour cela que j'ai choisi l'exemple de Danone au Bangladesh pour montrer comment il y avait, vous parlez de conversion, justement, alors Emmanuel Faber parle de révolution mentale, mais c'est, je crois, une autre manière de dire la même chose, c'est qu'il s'agit de regarder les choses autrement et de regarder, on disait il y a, je ne sais pas, une vingtaine d'années, small is beautiful, et d'une certaine manière, c'est peut-être à ça que la crise doit nous ramener, sachant qu'en même temps, il y a des interdépendances qui font que nous sommes obligés de nous intéresser aux enjeux systémiques. Alors c'est peut-être là aussi pour moi une réaction face à ce que disait Nicolas Véron tout à l'heure, quant à la grande question de savoir si on peut, s'il faut moraliser le capitalisme. Je crois que dans l'ensemble, les auteurs du livre sont tout à fait d'accord avec l'idée qu'il ne suffit pas de placer le débat sur le terrain éthique au sens... en tout cas pas au niveau de la morale individuelle, et que le grand enjeu, c'est un enjeu qui est politique derrière tout cela. Et je crois que l'ensemble des propositions que nous faisons ont trait justement à cette régulation et surtout cette réglementation par le pouvoir politique. En revanche, là où il me semble que notre perception est un peu différente, c'est que, à notre sens, il n'y a justement pas une forme de capitalisme, mais des formes. Et quand nous évoquions les critères en termes de justice sociale, il y a des formes qui correspondent plus ou moins à ces critères et qui permettent de tendre vers des sociétés plus justes. Et il nous semble extrêmement important que les entreprises soient mises dans la question. Moi, je résume souvent les choses en disant les entreprises font partie du problème, mais elles font aussi partie de la solution. Faire partie de la solution, ça veut dire que ce ne sont pas à elles de décider de quelle manière elles veulent s'auto-réguler, et qu'elles vont être aussi réglementées par des pouvoirs publics ou par des organismes à l'échelle nationale ou internationale. Mais en même temps, elles ont à faire partie de la solution, c'est-à-dire que il faut considérer qu'elles ont aussi des capacités d'initiative et qu'elles peuvent infléchir les choses dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et donc... c'est pour ça que peut-être, plutôt que de parler de morale à propos du capitalisme, si on place les choses en termes de justice sociale et d'équité, peut-être qu'on recentre le débat. Et en même temps, je dirais que la question, quand même, la question de la formation éthique est une question fondamentale à tous les niveaux. Et on voit bien que c'est parce que les personnes se disent qu'il ne s'agit pas simplement de décisions de bonne volonté individuelle, mais aussi de prise de discernement et de décision collective, c'est parce que l'on parle d'éthique sociale également que les choses pourront changer, y compris du point de vue des pouvoirs politiques.
Gaël.
Oui, je peux juste donner un exemple pour illustrer ce que vient de dire Cécile. J'ai participé à un cours dans une prestigieuse école de commerce parisienne l'an dernier, où j'ai essayé d'expliquer aux étudiants comment et pourquoi plein d'entreprises s'étaient fait avoir dans les années 2000-2001 par les introductions en bourse qui leur avaient été proposées par des grandes banques d'affaires. Et j'ai essayé de montrer comment à la fois les entreprises qui étaient introduites en bourse et les actionnaires qui ont acheté l'action de l'entreprise une fois qu'elle était émise sur les marchés se sont tous fait rouler. Les seuls qui ont gagné dans cette affaire, c'était les grandes banques. Et puis, il y avait une jeune étudiante qui était là, tout à fait brillante, remarquable, enfin l'espoir de la France, hein, qui lève le doigt et qui me dit, mais monsieur, je cite verbatim, si les gens sont assez cons pour se faire avoir, où est le problème? Et elle était soutenue par tout l'amphithéâtre. Voilà, donc j'étais le pauvre prof naïf, vous voyez, qui croit encore qu'il y a des principes dans une société. Alors je crois que c'est ça qu'on a essayé de défendre. Je crois que dans les questions politiques qui nous sont posées aujourd'hui, il y a une dimension éthique, mais qui est collective, qui ne se ramène pas à l'honnêteté individuelle du brave homme qui ne pioche pas dans la caisse. Voilà. Je réponds juste aussi à la question qui était posée là-bas sur les détails. Nous avons la conviction, d'une certaine manière, que malheureusement, le diable se cache dans les détails. Si on regarde les propositions qui ont été faites par le G20, elles vont toutes dans le bon sens, mais aujourd'hui, elles laissent une latitude telle d'interprétation pour la mise en œuvre pratique qu'il se pourrait très bien qu'elles ne fassent quasiment rien, c'est-à-dire qu'elles fassent des aménagements à la marge. Et dans ce cas-là, nous avons, en tout cas nous les auteurs, la conviction que ça recommencera l'année prochaine et que ce sera pire. Je prends juste un exemple, sans entrer dans les détails techniques, c'est celui des normes comptables internationales. Le G20 a prévu, d'une certaine manière, la suspension de la mise en œuvre de ces normes comptables internationales, alors que nous disons dans le bouquin qu'il faut les réformer. Il ne s'agit pas de les suspendre parce qu'on a vu qu'elles avaient eu un effet catastrophique sur les bilans des banques l'an dernier, mais il s'agit de les réformer. Et voyez, rien que ça, c'est un détail qui change tout. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit il faut absolument retrousser les manches et essayer d'entrer dans le détail de manière qu'on puisse aller jusqu'au bout de la problématique. Voyez.
Nicolas Véron.
Oui, personnellement, c'est peut-être parce que je travaille dans la technique, mais moi, j'ai pas trouvé que le livre soit trop technique. Je pense qu'il y a, au contraire, un effort qui est assez rare dans le livre, d'essayer de finalement raccourcir la chaîne de transmission entre les grandes généralités et puis les aspects vraiment concrets qui vont avoir un impact dans le monde réel, comme vous venez de le dire. Et je pense que cet effort, c'est un bon effort. Le livre, c'est un des grands, une des grandes qualités de ce livre, qui en a beaucoup. Après c'est toujours difficile de passer. C'est vrai que c'est très technique. Il y a une barrière à l'entrée. C'est une communauté spécialisée, la finance. Il y a du jargon. Il y a toute une série de références qu'on ne peut pas métaboliser simplement à la lecture d'un seul livre. Donc c'est à la lecture d'un seul livre. Donc c'est un défi difficile, mais je trouve que c'est un défi qui mérite d'être tenté et qui est bien tenté dans le livre. Moi, je vais faire un commentaire juste sur les deux remarques que vous avez faites. Est-ce qu'il faut, entre guillemets, mater la racaille de l'économie? Est-ce qu'il faut considérer que ce qui va pas dans les marchés, c'est le fait qu'il y aurait des individus minoritaires, suspects, connus de nos services et qu'il faudrait simplement sortir du terrain? Bon, moi, je vais vous faire une confidence, je vis pas dans un quartier défavorisé, je vis dans le centre de Paris, donc je suis pas légitime à parler de ce qui se passe dans les cités. Je crois qu'il arrive qu'il y ait des gens qu'il faut vraiment éloigner du quartier, de même que dans les marchés, il arrive qu'il y ait des escrocs, et les escrocs doivent aller en prison, donc c'est ce qui arrive à Monsieur Madoff, par exemple, aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai le sentiment que ce qui génère les bandes dans les quartiers est plus large que simplement une minorité d'individus subversifs ou séditieux. Et je crois que c'est la même chose sur les marchés financiers. Sur l'excès de focalisation sur les grandes entreprises, là je suis tout à fait d'accord avec vous, je crois qu'en France on a une vision, pour des raisons historiques sur lesquelles on pourrait passer une soirée entière, on a tendance à identifier l'économie aux grandes entreprises, et d'ailleurs si possible à des grandes entreprises dans lesquelles l'État a un rôle très important, soit en tant qu'actionnaire, soit en tant que tutelle d'une manière ou d'une autre. C'est une vision assez fausse, en fait, de l'économie. Ce qui est au cœur de l'économie de marché, c'est l'entrepreneur. Et il me semble d'ailleurs que Ernest-Antoine Seillard n'a pas rendu un service à la France en rebaptisant le Conseil national du patronat français en mouvement des entrepreneurs de France, MEDEF, parce que l'entrepreneur, ce n'est pas le patron de grande entreprise. Ce n'est pas d'ailleurs, de manière générale, le dirigeant d'entreprise, c'est celui qui crée une entreprise. Et ce n'est pas la même chose. Et il se trouve que la majorité des adhérents du MEDEF, ou des gens qui représentent les entreprises adhérentes du MEDEF, ne sont pas des entrepreneurs. Patron de boîte du CAC 40, moi j'appelle pas ça un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui crée son entreprise, qui crée le phénomène fascinant de l'entreprise capitaliste, si on veut. Il est l'héritage d'une entreprise qui a été créée parfois il y a très longtemps. Il gère cet héritage. Je crois qu'en effet, on a tendance en France à négliger le phénomène entrepreneurial. Il me semble que c'est en train de changer. Il y a des effets de génération, il y a des effets culturels, d'ouverture au reste du monde aussi qui joue, mais je crois que plus on reconnaîtra la centralité du phénomène entrepreneurial dans notre capitalisme et dans notre économie, mieux on se portera.
On reprend peut-être une série de questions. Il y en avait une devant. Voilà, on va rester par devant. Monsieur, je crois que vous... Voilà, ici, et puis ensuite là, et puis je crois que par là. Alors, des questions... Bref, pour qu'il puisse y avoir des réponses brèves et qu'on en profite tous.
Alors, d'abord une question à Monsieur Véron. Est-ce qu'il pense que le capitalisme actuel doit être réglementé ou pas? Et puis alors une question.
La réponse est oui.
Bon, mais... Allez-y. Ne vous laissez pas impressionner. Allez-y.
Et à la sœur Cécile, je voudrais poser la question suivante. Réglementer le capitalisme, mais à quel niveau? Au niveau mondial, sans doute. Alors on raconte, je ne sais pas si c'est exact, que la Chine et les États-Unis seraient plutôt contre. Voilà, première chose. Et deuxième question, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par réglementer les monnaies? Actuellement, la Chine et les États-Unis jouent avec le yen et avec le dollar. Comment faire?
Question simple. Bon, on va peut-être en prendre quand même une deuxième par là.
Je voudrais tenir un propos provocateur et vous demander de réagir à ce propos provocateur. Avant de réformer le capitalisme, ne faut-il pas le célébrer, au sens où c'est bien le capitalisme qui a permis ces 30 dernières années à des centaines de millions d'hommes de par le monde de sortir de la pauvreté et à un nombre considérable d'autres de bénéficier d'innovations technologiques, d'augmenter leur niveau de vie, etc. Donc avant de réformer le capitalisme, ne faut-il pas le célébrer? Et la deuxième interrogation que je veux de manière un peu provocante, vous lancez est la suivante. Qu'est-ce qui nous gêne dans la crise actuelle? Qu'il y ait une crise? Le capitalisme est effectivement cyclique. Mais est-ce que cette crise n'est pas un révélateur, en l'occurrence, un révélateur du fait que toutes les économies occidentales, américaines et européennes, ont vécu sur un endettement excessif et qu'il est temps, il est grand temps, que l'Occident, pour sauver la croissance mondiale, mette un frein progressif au fait qu'il vit au-dessus de ses moyens. C'était très clair dans la crise américaine et ça le sera probablement également dans la crise européenne.
Merci. Et on va prendre une troisième question ici. Question brève, si possible.
Oui, Nicolas Véron a dit que...
Parlez bien dans le micro, fort, voilà.
Nicolas Véron a dit que la finance alimentait le cœur, enfin, avait un lien avec le cœur battant et haletant du monde. Mais je me demande quand même s'il ne faut pas creuser un peu plus cette déconnexion entre la sphère réelle et la sphère financière. Moi, j'ai essayé de comprendre un peu ce qui s'était passé aux États-Unis en lisant un livre, le roman vrai de la crise financière. Je me suis aperçue qu'on avait fait des actifs financiers basés sur des crédits à l'immobilier. Je n'ai pas compris ce que ça allait financer dans l'économie. Et j'ai eu l'impression que dans les marchés financiers, il y avait des tas de produits basés sur de la valeur qui étaient là pour du pari financier, faire de l'argent avec du pari, avec des courants d'opinion. Donc je me demande quand même si on ne peut pas faire quelque chose pour que tout ça soit quand même limité, parce qu'au-delà de la moralité, c'est quand même dangereux.
Merci. Qui veut se lancer? Ça va être la fin. Bravo, Cécile.
Alors, je commence et puis ensuite, pour les questions compliquées, je laisse la parole à Gaëlle. plus sérieusement, réglementer les entreprises, à quel niveau? C'est vrai, je crois qu'en tout cas, il ne faut pas attendre que tous les pays soient d'accord pour commencer à réglementer, parce que sinon, on peut attendre longtemps. Donc, regardons d'abord de notre côté, disons France, européen. La France a passé la loi NRE en 2001 sur les nouvelles réglementations économiques, oblige les entreprises cotées à publier chaque année un rapport développement durable avec des données sociales et environnementales. C'est très insuffisant parce qu'on ne précise pas ce qu'elles doivent publier et elles choisissent largement ce qu'elles font, quel périmètre, selon quels indicateurs. Il n'empêche que c'est un premier pas en avant. Et puis, il y a au niveau de l'Europe un certain nombre aussi d'incitations faites aux entreprises pour qu'elles agissent de manière plus socialement et environnementalement responsable. Alors c'est vrai que ce sont, et de façon générale au niveau international, par exemple au niveau de l'ONU, le pacte mondial de l'ONU a été une manière pour Kofi Annan de contourner l'obstacle. L'obstacle étant pendant des deux dizaines d'années, il y a eu à l'ONU un centre de surveillance des multinationales qui avait pour rôle de contrôler les activités des grands groupes et d'essayer de mettre en place un code qui était supposé devenir contraignant, et en raison des lobbying exercés par un certain nombre de secteurs industriels, ce code n'a jamais vu le jour. Et donc le pacte mondial, le Global Compact, a été une manière pour Kofi Annan d'engager les entreprises à justement volontairement adhérer à ce pacte qui concerne 10 principes, donc les droits de l'homme, droits du travail, respect de l'environnement et lutte contre la corruption. Alors on peut dire que c'est tout à fait insuffisant, que c'est justement pas de la réglementation, mais une volonté pour les entreprises justement de s'auto-réguler. Il n'empêche que déjà pour celles qui adhèrent à ce pacte, d'une certaine manière, elles sont prises au piège de leurs propres déclarations. Il y a aussi un effet de réputation pour les entreprises et donc indirectement sur leur cours en bourse. Je crois que ça, alors c'est ce qu'on appelle la soft law, les normes molles ou douces, elles ne sont pas suffisantes, mais déjà, elles marquent une volonté de transformer un peu les choses. Et puis il y a la tentative de la part d'un certain nombre de gouvernements, ou à l'échelle par exemple de l'Europe, de mettre en place des réglementations contraignantes. Alors, il y aurait énormément de choses à dire. Il y a aussi l'aspect pénal, le fait que la procédure pénale en France permet, par exemple, ça a permis à des plaignants birmans de porter plainte contre Total pour des violations, complicité de violation des droits de l'homme en Birmanie, et ce qui s'est soldé par un accord à l'amiable entre Total et les plaignants. Enfin, voilà, on sent bien qu'à l'heure actuelle, de différentes manières, il y a cette volonté d'encadrer l'activité, le mouvement, disons, socialement responsable des entreprises. Alors, ce niveau, évidemment, on peut espérer que petit à petit, des indicateurs harmonisés voient le jour. Il y a déjà un certain nombre de la GRI, par exemple pour ceux qui connaissent, qui est au niveau mondial, un effort fait pour mettre en place des indicateurs qui permettent ensuite aux entreprises d'évaluer leurs pratiques ou d'être évaluées. Ce que disent, alors j'ai pas mal discuté avec des gens d'un grand cabinet d'audit qui s'occupent à la fois de l'audit financier, mais qui commencent à se préoccuper des aspects financiers, et leur conclusion en ayant regardé les aspects extra-financiers, pardon. Et leur conclusion consistait à dire que le contrôle extra-financier est tout à fait insuffisant, ça c'est certain, et eux plaident en faveur d'un travail secteur industriel par secteur industriel, enfin industriel ou financier, manière à pouvoir mettre en place de bons indicateurs qui permettent aux entreprises d'un même secteur de se comparer ou d'être comparées, d'évaluer leurs performances et de faire avancer les choses. Enfin, bon, j'ai pas le temps de détailler, mais disons qu'il me semble qu'il y a un double mouvement, à la fois d'auto-organisation, d'inscription des entreprises, notamment des pays occidentaux, dans des cercles qui sont censés être des cercles vertueux, et puis une volonté d'harmoniser les règles du jeu et de contraindre, sachant que c'est lent. Alors, je voudrais juste rapidement évoquer un point au niveau de la réglementation possible des entreprises. Il y a aussi toutes ces questions de fiscalité à l'échelle internationale. Et là, on l'a évoqué notamment dans une proposition que j'ai écrite avec Max de Chanterac qui est dans la salle et qui pourrait peut-être en dire un mot, cette question des prix de transfert, qui est une manière par laquelle, donc les prix de transfert, ce sont les prix des biens et services échangés à l'intérieur des grands groupes, entre filiales ou entre filiales et maisons mères. Et voilà, par différentes pratiques légales, mais qui nous semblent tout à fait illégitimes, les grands groupes sont capables donc de faire de l'optimisation fiscale, ce qui est une manière de pénaliser d'autant les pays du Sud. Et là, il nous semble qu'au niveau des réglementations à mettre en œuvre, en tout cas les pouvoirs publics pourraient faire des choses en matière non seulement de lutte contre les paradis fiscaux, mais aussi de lutte contre les pratiques d'optimisation fiscale injustes. Je ne sais pas si Max veut rajouter quelque chose. Si on...
Le micro.
Oui,
Pour pas le moment.
Brièvement, hein, très très brièvement.
Je crois que tu l'as tout à fait bien expliqué. Enfin, les mécanismes de prix de transfert sont effectivement les prix que certaines entreprises internationales utilisent pour s'échanger de produits de pays à pays, et en faisant en sorte que le prix soit plus ou moins haut ou plus ou moins bas, on arrive de cette façon à localiser un profit dans un pays ou dans un autre. Ça fait partie de pratiques qui sont pas du tout illégales. Elles sont illégales à la marge, mais ça peut tout à fait faire l'objet de réglementations, comme tu l'évoquais.
Je réponds à un certain nombre d'autres questions. Enfin, j'essaye en tout cas. La question de l'endettement et puis la monnaie. L'endettement, je suis absolument d'accord avec vous. Ce que révèle la crise de 2008 et encore d'aujourd'hui, c'est que, en gros, sur les 20 dernières années, on a vécu dans un régime de croissance qui, d'une certaine manière, était malsain. C'était un régime de croissance qu'on pourrait caractériser comme une croissance molle, c'est-à-dire que le PIB des grands pays de l'OCDE augmente lentement, par rapport aux 30 glorieuses, par exemple, hein, 2-3% par an. L'inflation est relativement faible à des périodes exceptionnelles près, 2-3% par an. Les salaires augmentent très lentement, eux aussi, de sorte que le pouvoir d'achat des salariés augmente très lentement. Il y a même des pays dans lesquels il a régressé, par exemple l'Allemagne, au cours des 15 dernières années. Et par contre, ce qui explose, ce sont les revenus financiers. Alors évidemment, pour que cette espèce de compromis économico-social de croissance molle fonctionne, il faut que l'inflation, surtout, soit jugulée. Dans ce cas-là, vous comprenez pourquoi on a donné comme mandat prioritaire à la Banque Centrale Européenne d'empêcher l'inflation d'excéder 2%. Parce que sinon, ce compromis de croissance molle explose. Le problème de ce compromis-là, il a commencé à surgir au milieu des années 90, c'est que les ménages, petit à petit, parce que leurs salaires ne croissent pas suffisamment vite, ne peuvent pas fournir la demande nécessaire qui permet à l'économie de continuer de croître. Alors qu'est-ce qu'on a inventé à ce moment-là ? Le crédit à la consommation. D'une certaine manière, on était confronté à un problème, à mon sens, keynésien, de manque de demande, et au lieu d'essayer de résoudre le problème, c'est-à-dire de valoriser le pouvoir d'achat des salariés, on aura fait du crédit à la consommation. Et là-dessus, s'est greffée la bulle spéculative financière, parce qu'on s'est rendu compte que ces ménages pauvres en particulier à qui on a fait du crédit à la consommation, bien que pauvres, ils sont très nombreux, et donc additionner les unes aux autres, ces pauvretés, ça fait beaucoup de richesses. Et donc on a titrisé les dettes de ces ménages, c'est-à-dire on les a transformées en actifs financiers qu'on s'est échangés sur les marchés. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière on s'est dit, tout ça va nous rapporter énormément d'argent. On a fait jouer mutatis mutandis aux ménages pauvres américains le même rôle que celui qu'on avait fait jouer aux pays du Sud dans les années 70-80 lorsqu'on leur avait accordé des prêts avec des taux d'intérêt prohibitifs pour eux, et qu'au bout d'un certain moment, les mouvements financiers du sud vers le nord étaient plus importants que les mouvements financiers du nord vers le sud à cause du remboursement de la dette. Vous voyez ? À ce sujet, je réponds juste à une autre question, et après j'arrive à la monnaie, sur la question d'une éventuelle racaille financière. C'est clair que ce livre, et je crois que tous les auteurs sont d'accord, essaye de réfléchir aux questions structurelles. En même temps, il me semble qu'il y a quand même un bon nombre d'acteurs aujourd'hui financiers qui sont d'accord pour dire qu'il y a une partie du management des grandes banques internationales qui a une part de responsabilité colossale dans ce qui s'est passé. Pour caricaturer, alors malheureusement les caricatures, voilà, elles valent ce qu'elles valent, il y a quand même un certain nombre de membres du management de ces grandes entreprises qui s'est dit, c'est vrai que la bulle qu'on est en train de construire sur les subprimes va un jour exploser, mais probablement qu'elle explosera après mon départ à la retraite. Ou après que j'aurai changé de poste. Vous voyez ? De ce point de vue-là, il y a une responsabilité. Et moi, nous, on a entendu, Cécile et moi, un certain nombre de patrons dire il faudrait quand même faire le ménage dans le patronat d'un certain nombre de grandes banques aujourd'hui. Et on n'arrivera pas à reconstruire des banques en qui on puisse avoir confiance si on ne fait pas le ménage à ce niveau-là. Voilà. Je réponds juste aussi sur la question de la monnaie, qui est une question immense, extrêmement compliquée. Pour dire les choses juste en un mot, je suis absolument d'accord avec vous sur le fait que le problème du capitalisme qui est en train de s'effondrer aujourd'hui, donc un capitalisme à l'anglo-saxonne qui prétend organiser les sociétés autour des marchés financiers, ce modèle-là est né en gros le 15 août 1971 lorsque Nixon a décidé de mettre fin à Bretton Woods en rendant flexible le cours du dollar. C'est là que, d'une certaine manière, le mal a commencé. Bon. Aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement dangereuse et inextricable à cause du fait que c'est la Chine qui soutient la dette américaine et la Chine a intérêt à le faire parce qu'elle doit soutenir le dollar. Pourquoi doit-elle le faire ? Parce qu'elle est elle-même assise sur une montagne de dollars qu'elle a acquis grâce à son excédent commercial. La Chine n'a aucun intérêt aujourd'hui à ce que le dollar s'écroule. C'est la raison pour laquelle elle est contrainte, volens nolens, de soutenir la dette américaine. Bon, mais les Chinois ont bien compris qu'ils ne pourront pas le faire éternellement, et c'est bien pour ça que peu de temps avant le dernier sommet du G20, ils ont commencé à proposer qu'on change de devise internationale. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont coincés. Bon. Le problème, malheureusement, c'est que je ne vois pas de grands candidats surgir à l'horizon, dans la mesure où, pour que l'euro puisse jouer ce rôle de candidat alternatif, il faudrait qu'il y ait une unité politique européenne, qui aujourd'hui fait défaut. Et c'est aussi l'un des grands thèmes de cet ouvrage, qui est de dire... On ne pourra pas construire un véritable capitalisme alternatif en Europe aujourd'hui si nous n'accélérons pas, de manière volontariste, la construction politique européenne.
Nicolas Véron, faut-il célébrer le capitalisme pour terminer la soirée ?
Bon, d'abord, on m'a demandé s'il fallait réglementer le capitalisme. J'ai dit oui. La question, c'est évidemment comment. Je crois qu'il y a eu une idéologie. Elle existe d'ailleurs encore un peu. Elle existe encore beaucoup aux États-Unis. Qui était l'idée du marché auto-organisé, du marché qui fonctionnait d'autant mieux qu'il était plus dérégulé. On peut appeler ça le fondamentalisme de marché. C'est une expression que moi j'aime bien, qui exprime bien par l'utilisation du mot fondamentalisme le côté très idéologique de cette vision. En réalité, je crois que tous les gens raisonnables sont d'accord pour dire que le capitalisme doit être régulé. En même temps, la vivacité, la force vitale de l'échange doit pouvoir se manifester, sinon on stagne ou on s'appauvrit. Et la question, c'est vraiment le comment. La crise révélateur de l'endettement, je suis d'accord avec ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la question, on ne va pas supprimer l'endettement. Hein. L'endettement, c'est le crédit, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir maîtriser, mais qui est allé trop loin, c'est clair. Mais je ne pense pas qu'on puisse... Quand on a dit ça, on a commencé un diagnostic. Je ne crois pas qu'on soit arrivé au bout d'un diagnostic. Je vais répondre sur célébrer le capitalisme. Juste avant... J'ai envie de réagir sur ce qui a été dit par madame sur la déconnexion entre sphère réelle et sphère financière. Je vais pas être long. Il y a un économiste qui est très connu français, qui est à Harvard, qui est très respecté dans le monde des économistes universitaires, sur la théorie de la croissance et de l'innovation. Il s'appelle Philippe Aguillon. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui récemment de sa vision de la crise. Et il disait, donc lui, son champ d'étude, c'est comment l'économie permet de déplacer ce qu'il appelle la frontière technologique. Comment est-ce que les entreprises qui sont les plus pionnières en termes d'invention, de création de nouvelles techniques, de création de nouveaux concepts, tirent l'économie, comment elles-mêmes se font financer. Donc il est vraiment sur cette logique de la partie la plus dynamique et la plus inventive de l'économie capitaliste. C'est ça son domaine d'étude. Il disait, bah oui, moi je suis d'accord, il faut réglementer tout ça, il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette spéculation absurde, ces produits titrisés déments, tout ce qu'on a vu. Et puis en même temps, j'ai un problème. C'est que je veux pas qu'en réglementant tout ça, on tue le capital risque. Parce que le capital risque, c'est ce qui permet aux startups d'exister, ce qui permet à des entreprises nouvelles, innovantes, de se développer. Sans le capital risque, il n'y a plus d'innovation. Et au fond, dans ce cri du cœur, il disait quelque chose de très profond. Tout est lié dans le système capitaliste. Et nous ne savons pas exactement comment, mettons, par exemple, interdire la titrisation, ou interdire certaines formes de titrisation, va impacter l'existence du capital risque. Encore une fois, tout ça, c'est un phénomène, c'est un objet d'étude, mais c'est pas une construction qui a été pensée de manière cohérente. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Ah ben, on va créer un marché pour qu'il y ait du capital risque ». Tout ça est né de manière beaucoup plus spontanée. Je ne vais pas rentrer dans des questions de créationnisme. Mais c'est un phénomène très décentralisé, l'innovation capitaliste, y compris dans l'organisation du marché financier. Et donc, peut-être des connexions sphère financière, économie réelle, mais encore une fois, les membres et l'estomac, le cœur battant et haletant du monde, bref, je vous ai sorti toutes mes métaphores. Les entreprises n'existent pas sans la finance. Et il faut réglementer la finance, il faut la réformer, il faut l'encadrer, mais en même temps, il faut arriver à lui garder son rôle de faire circuler et d'allouer, comme on dit en langage technique, de faire aller les capitaux là où on en a le plus besoin, vers les entreprises et les ménages aussi d'ailleurs qui en ont le plus besoin. Et c'est cette complexité du système financier qui rend la régulation tellement difficile. La régulation, c'est indispensable, mais c'est extraordinairement difficile. Alors, célébrer le capitalisme. Moi, j'ai envie toujours de célébrer le capitalisme, mais en même temps de le dénoncer. Le capitalisme, je trouve que c'est quelque chose d'enthousiasmant et en même temps de révoltant. Alors, appelez-moi, traitez-moi de schizophrène, hein. Mais j'ai le sentiment que si on veut progresser, individuellement ou collectivement, par rapport à tout ça, il faut pas avoir d'illusions sur le capitalisme, il faut pas le déifier. Je ne sais pas si c'est le bon mot à utiliser ici, là encore. Mais il ne faut pas le diaboliser non plus. C'est-à-dire qu'on en a besoin et en même temps, il faut toujours garder une distance critique, être capable de comprendre le capitalisme pour essayer d'en combattre les dérives qui sont permanentes. Parce que c'est une machine qui ne dérive en permanence. Moi je suis d'accord avec vous, monsieur, il faut célébrer le capitalisme, mais en même temps, il faut le dénoncer.
Voilà, on pourrait rester encore très tard ce soir, on a déjà dépassé les horaires. Je voudrais remercier en votre nom les intervenants. On voulait apporter notre petite pierre à la réflexion commune sur ces sujets. On aura l'occasion d'y revenir sûrement dans les mois qui viennent. Les ouvrages de nos intervenants sont au stand de presse. Vous trouverez aussi à la sortie une petite corbeille pour participer aux frais de la soirée. Merci de votre présence. Je vous espère nombreux pour la dernière soirée d'éthique publique de l'année, le mardi 2 juin prochain. Peut-on un jour vraiment arriver à la paix entre Israéliens et Palestiniens? Et n'oubliez pas, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit ce soir à la télévision. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Vous restez